C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, le plan de lutte contre l'itinérance qui a été présenté hier par le ministre Carman. Et c'est 200 quelques millions sur 5 ans. Puis l'image qu'on a, c'est vous sortez des centres de jeunesse à 18 ans. On vous laissera pas tomber. Vous sortez de prison, on vous laissera pas tomber. Tout ça pour éviter que les gens se retrouvent à la rue. Alors, est-ce que c'est un plan qui tient la route?
Moi, j'ai envie de te dire, Paul, oui, c'est un plan qui tient la route. 280 millions sur 5 ans, c'est énorme, c'est sans précédent. Il y a deux autres plans qui ont été déposés avant celui d'hier, 2009-2014, mais celui-là, là, il est unique, non seulement par ses investissements, mais également par le travail de concertation qui a été fait en amont. 2 ans de travail avec les intervenants, c'est un plan qui est reçu dans un concert d'unanimité. Et lorsque tu lis les intentions du gouvernement. Et je dis en passant, bravo, ministre Lionel Carman, d'avoir exercé son leadership. Lorsque tu lis le plan d'action et tu entends ce que le ministre a dit sur le plan d'action, tu dis, ah, il y a une cohérence entre le discours et les actions. Maintenant, il faudra voir sur le terrain si les bottines vont suivre les babines. Parce qu'il y a un réel défi de lutter contre l'itinérance. Et malheureusement, c'est un phénomène qui est de plus en plus visible, palpable, entre autres à Montréal. La pandémie a révélé plusieurs choses, dont cette réalité liée à l'itinérance. Et moi, ce qui m'encourage, c'est de savoir qu'on veut travailler, on veut changer la culture, l'approche, c'est très bien. Il y a une reconnaissance du travail que font les organismes communautaires sur le terrain, ça c'est extraordinaire. On veut travailler différemment, hein, une approche basée sur la prévention, sur l'accompagnement, sachant qu'il y a autant de parcours de vie liés à l'itinérance qu'il y a d'itinérants. C'est vraiment un message très, 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 très fort qu'envoie le gouvernement. En fait, ce que le gouvernement dit, c'est que c'est une réalité qu'on prend au sérieux, puis à laquelle on doit collectivement s'attaquer.
Luc?
Les données qui sont fournies par l'Association des psychiatres démontrent qu'il y a 50 % des itinérants qui sont des jeunes qui sortent des centres de jeunesse. Fait que c'est énorme, c'est gigantesque. Alors oui, travailler à la source, c'est important. Sauf que il y a une association qui s'appelle Jeunes Plus, à ta minute, je vais retrouver le nom, de Mme Dufour, qui signale, oui, elle s'appelle Coalition Jeunes Plus, qui signale, oui, mais il y a l'autre 50 % aussi. Puis l'autre 50 %, ben, c'est des jeunes qui ont été abandonnés dans le cadre de vie régulier, c'est-à-dire décrochage scolaire, comportement.
Sortie de prison.
Sortie de prison, il y en a aussi. Dope, oui, criminalité jeune, etc. Toxicomanie, pauvreté. Et ça, ce taux de 50 %-là, lui, il ne fait pas partie de l'équation. Là. Donc, il faut faire attention. T'sais, lui, c'est le problème majeur de la société, là, un problème qui crée, qui génère de l'itinérance. Et ça, c'est moins adressé dans le document. Bon, on va pas quand même cracher dans la soupe. C'est vrai que, pour une fois, tous les groupes communautaires sont d'accord. Le RAPSIM, la mission Old Brewery, etc. Et donc, ça, parce que ça adresse, ça dit les bonnes choses. Ça dit deux choses. Ça dit, un, on va essayer de faire de l'intervention à la source. Deux, on va essayer de faire de la réhabilitation. Et la réhabilitation, ça marche. Ça marche. Ils en ont réhabilité plus de 2000 dans les dernières années. Là, parce que dans l'itinérant, t'as tout. T'as des gens qui ont une dépression ponctuelle. Elle se répète pas, mais c'est un gros événement dans leur vie. Dépression dans la rue, divorce, machin, etc. Perte d'emploi. Des fois, c'est juste économique, lié à la pandémie en particulier, mais à d'autres événements aussi. Des fois, c'est des problèmes de santé mentale légers qui se traitent. Tu peux travailler au quotidien, même si des fois, c'est des problèmes de santé mentale lourds. Des fois, c'est de la toxicomanie dont tu ne reviendras pas. Donc, il y a toutes les solutions, il y a tous les problèmes. Il faut les discerner les uns à côté des autres avant d'intervenir. Et c'est ce que le plan fait. Donc, bravo, bravo, bravo. Bravo. Bon, ben moi, comme je suis un peu critique en toute chose...
Il semblait aussi que ça tardait, là.
Hein, ça le budget. 280 millions, première question. Est-ce que c'est... parce que c'est essentiellement du logement. Est-ce que c'est... Ça fait partie de l'entente tripartite de 1,5 milliard qui a été annoncée il y a quelques mois. Et c'est une annonce recyclée. Donc, au sein de l'entente de 1,5 milliard, il y a une partie du 280 millions. La question est posée. J'ai pas la réponse. Deuxième chose. Helsinki, une ville qui a réussi à éradiquer l'itinérance, une itinérance beaucoup, beaucoup liée à l'alcool dans leur cas. Ils ont mis une population la moitié moins grande que Montréal. Pour régler le problème, ils ont mis 500 millions. Et ils l'ont réglé. Donc, si on prend ils ont réglé avec les interventions même qui sont proposées dans notre plan, c'est-à-dire logement, d'une part, et intervention communautaire, d'autre part, ils ont mis 300 personnes dans l'intervention communautaire. Ils ont dit, on va le régler une fois pour toutes, puis ils l'ont fait. Mais ça a coûté le double de ce qui est annoncé pour Montréal.
Nathalie.
Oui, ouais, mais c'est une première, Luc, parce que 280 millions, je disais, c'est un investissement sans précédent. D'ailleurs, Paul, le docteur Olivier Fermeur, à qui tu as parlé un peu plus tôt, qui s'occupe d'itinérance à l'hôpital Notre-Dame du CHUM, l'a reconnu. C'est la première fois qu'il y a autant d'argent sur la table. Il faut saluer l'effort. Est-ce que ce sera suffisant, Luc? Probablement que non, compte tenu de tous les parcours auxquels on est confronté lorsqu'il s'agit d'itinérance. Mais moi, ce que j'aime, c'est que c'est un plan qui embrasse large, mais en même temps, on s'enfarge pas dans les dizaines et dizaines d'actions de moyens. C'est 14 actions, 31 moyens. Tu le dis, beaucoup lié à l'hébergement. Il y a des mesures pour les jeunes, les femmes autochtones. On parle d'hébergement d'urgence, d'hébergement de transition. On parle de services de proximité. On sent vraiment cette volonté d'accompagner chaque personne qui souhaite s'en sortir. Oui, il y a des itinérants qui vont vivre de manière chronique dans la rue. C'est une personne sur 10, comme le disait le docteur Farmer un peu plus tôt. Donc, pour les 9 autres, pour ces personnes-là, ça, il faut leur offrir de la dignité, hein, dans la rue. Mais pour les 9 autres personnes sur 10, dont les jeunes, il faut urgemment dire comment on peut mieux les accompagner puis s'assurer effectivement qu'ils puissent être réhabilités dans la vie, parce que c'est un potentiel de ressources qu'on a qui est là. Imaginez un jeune qui sort d'un centre jeunesse, puis ça encore là, le gouvernement, oui, va s'occuper de ces jeunes-là avec son approche et tout ça, mais les centres jeunesse ont aussi une responsabilité. C'est quand même assez déconcertant de voir qu'un jeune de 18 ans se retrouve du jour au lendemain dans la rue, pas accompagné, alors qu'il a passé une grande partie de sa vie dans les centres jeunesse. Fait que oui, c'est une affaire de gouvernement, de société, mais il y a d'autres organismes qui sont aussi interpellés dans la gestion de cette
problématique. Mais dans le cas des jeunes, je te dirais qu'il y a eu des initiatives là, pour les aider à, comme on dit, dans les activités quotidiennes, là, t'sais, capable de signer un bail, capable d'ouvrir un compte de banque. Bon. Mais c'est loin de ce que moi j'ai vu ailleurs dans d'autres juridictions, des jeunes qui étaient accompagnés jusqu'à l'âge de 25 ans, là. Mm-hmm. Pas dans le détail tous les jours, mais qui avaient au moins une référence pour éviter justement que ça dérape et qu'ils se ramassent à la rue là, ou dans le parc.
Justement, Paul, parlons-en de ailleurs, parce que j'ai regardé justement ce qui se fait ailleurs, puis t'as raison. Le plan il est majeur par rapport à ce qu'on fait actuellement, mais par rapport à ce qui se fait ailleurs, il est peut-être pas à la hauteur dans certains cas. Là, tu parles des centres de jeunesse. Moi, je parlais d'un autre problème qui est santé mentale permanente, des problèmes de santé mentale permanente.
Tout à fait.
Et là, à Trieste, en Europe, et aussi dans une ville nord-américaine de la côte Est, ils ont réalisé qu'il fallait une intervention quotidienne auprès des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Quotidienne, parce qu'il faut qu'ils se sentent encadrés, il faut qu'ils sentent qu'il y a un contact, une personne qui s'occupe de lui ou d'elle. Et cette relation quotidienne-là, elle ne peut pas être faite avec la santé. Ça coûte trop cher. Tu peux pas dire, je vais l'envoyer dans le système de santé, dans les services sociaux. Ça coûte trop cher. Alors, ils forment des groupes communautaires à faire cette intervention quotidienne-là. Et cette intervention-là, c'est de la socialisation, c'est des contacts de personne à personne. Et ça remplace les interventions lourdes de santé mentale à la longue. Et ça fonctionne. Alors, le quotidien, ils sont tous fichés, ils ont tous un nom, on connaît leur nom, puis on s'assure que chaque nom était rencontré chaque jour. Parce que de penser que tu vas aller dans la rue, puis tu vas retrouver la personne, puis que s'il y a un problème, tu vas le voir, non. C'est un suivi quotidien, chaque personne de santé mentale.
Très bien. Au retour, on va parler de l'Est de Montréal. Est-ce que l'heure est venue d'investir, en masse d'ailleurs, pour l'Est de la métropole?
La commission Normando-Ferrandaise.
Il n'y a pas que les quartiers centres à Montréal, comme le plateau Rosemont. Il y a l'Est de Montréal qui a souvent été négligé pendant des années. Il y a Denis Coderre qui dit qu'il faut réinvestir, M. Ferrandaise.
Bon, fait que au moins on constate que l'Est a besoin d'un gros quelque chose, on sait pas quoi. Mais là, j'ai entendu
de beaucoup d'amour, Luc, de beaucoup d'amour.
Oui, gros. Mais ça se transporte dans quoi, ça? Une citerne, un container, un gros quelque chose, en tout cas. Oui. Mais là, la vieille recette. On va aller chercher nouveaux investissements. Puis s'il faut, on va aller chercher à l'international.
Puis t'es contre ça, toi.
Mais là, regarde, faut envoyer tout ce monde en thérapie, là. La Chambre de commerce, les élus qui n'arrêtent pas de parler comme ça, le premier ministre, tout le monde, thérapie gratuite pour tout le monde.
Voyons.
On a la dernière chose qu'on a de besoin, la dernière, c'est des nouveaux investissements, des nouveaux emplois. Regarde, Amazon va ouvrir là, dans l'Est. C'est quoi Amazon? Il a acheté un terrain 100 hectares. C'est moi, figurez 100 hectares, là. c'est quatre fois le parc de La Fontaine, à peu près trois fois et demi le parc La Fontaine. Là. Trois fois et demi le parc La Fontaine pour un entrepôt. T'imagines-tu la taille de l'entrepôt, toi? Fait que là, c'est combien de camions, ça, pour remplir l'entrepôt puis pour le vider au quotidien? C'est combien de camions, ça?
Camion électrique.
Ils ont beau être électriques, là. Ils ont beau être, tu vas faire une désertification de tout l'espace de vie qu'il y a autour. Plus personne peut vivre là. C'est impossible. Mais c'est quoi l'affaire qu'on a besoin des emplois? C'est combien d'emplois disponibles qui sont en ce moment disponibles au Québec? On n'est pas capable de les remplir. Autour de 300 000, je pense, un peu en bas de 300 000. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de la formation, de la réintégration. Ces gens-là, là, c'est très difficile. On leur propose des emplois qui sont moins payants que ceux qui ont déjà occupé. Ils veulent attendre qu'un nouvel emploi payant réapparaisse. On leur propose des emplois qui sont pas dans la bonne région. On leur propose des emplois qui nécessitent une nouvelle formation. Il y a tout un travail à faire de maillage entre les gens qui sont disponibles puis les emplois qui sont disponibles. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Aller chercher des nouveaux investissements. Sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire que 6 mois plus tard, tu vas chercher des nouveaux employés en dehors de la province. Puis là, on l'a dit hier, 20 000 employés de plus, des temporaires permanents, immigrants, qui arrivent, qui cherchent quoi, eux autres, la première affaire? Devine quoi? Parce que ça leur tente pas de dormir à l'aéroport. Ils cherchent un logement, toi. Puis il y en a pas. C'est quoi qu'il y a pas à Montréal? Un logement! Fait qu'il faut développer l'Est de façon intelligente avec du résidentiel. Il faut créer des zones de vie et puis l'emploi, il va venir tout seul.
Pensée magique si on t'écoute, là, parce que honnêtement,
attends, je me suis trompé. Oui. Il va pas venir tout seul. Il est déjà là, l'emploi. Il y en a 300 000 qui attendent, là.
Nathalie.
Ouais, mais Luc, j'ai l'impression en t'entendre que tu veux faire de l'Est de Montréal une espèce de grand parc, là.
Simple.
Non, je suis pas simple, Luc, sauf que tu dis non aux emplois. Moi, là... C'est pas la première fois qu'une administration s'emploie à développer l'Est de Montréal, qui a évidemment connu ses heures de gloire, on le sait, entre autres, avec les raffineries, avec le secteur pétrolier. Lorsque Denis Coderre dit faut développer le réflexe Est Montréal, moi, j'aime ça. Pourquoi j'aime ça? Parce que là, ce qu'il dit, c'est que priorité un secteur qui a de toute évidence de grands défis à relever. Lorsque Valérie Plante, mairesse, signe une déclaration avec Chantal Rouleau en décembre 2018 pour faire de l'Est de Montréal une zone innovante, je me dis bravo, j'applaudis à ça, Luc, parce que d'autres villes comme le secteur de l'Est de Montréal ont réussi cette conversion ils sont passés d'un secteur polluant à une vocation plus verte. T'aimes ça les exemples à l'international? Va voir ce qu'a réussi à faire la ville de Essen, E-S-S-E-N, dans l'ouest de l'Allemagne. Une ville qui vivait du charbon, 600 000 habitants. Ils ont été déclarés en 2017 verte, la ville la plus verte de l'Europe. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Oui, logements abordables, logements sociaux, des parcs, des emplois. Ils ont réussi conversion vers l'énergie verte, Luc. Alors, j'essaie de comprendre ton raisonnement. Lorsqu'il nous dit non aux emplois, puis on envoie tout le monde en thérapie, je comprends, parce qu'il faut que tout ce monde-là travaille ensemble. Oui, la ville, mais également le gouvernement du Québec. Un autre exemple très, très concret, Luc. Il y a une entreprise qui est établie à Anjou, qui fait dans la récupération de batteries pour les voitures électriques. Ça s'appelle Lithion. Je me dis, voilà une entreprise qui a une vision, qui veut développer d'autres entreprises à l'international, qui, elle, effectivement, pourrait devenir un fer de lance pour repositionner l'Est de Montréal dans le domaine des énergies vertes.
Mais
combien d'entreprises sur
pourquoi,
la planète
Nathalie?
Actuellement font ce qu'ils font? À peu près aucune. Alors, je me dis bravo.
Mais c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'on va développer des nouveaux investissements? Regarde, tu me demandes d'être concret. Tu m'as demandé l'exemple. Tu donnes l'exemple de SN, puis tu dis, ils ont fait du logement social, ils ont fait de l'habitation, ils ont fait des...
La création d'emplois également.
Parlons-en de la création d'emplois. Sais-tu combien il y a d'emplois sur le plateau Mont-Royal? Plateau Mont-Royal, il n'y a pas une cheminée, là. Il n'y a pas un bâtiment qui fait plus que 6 étages. Sais-tu combien il y a d'emplois sur le plateau Mont-Royal? 54 000. 54 000 emplois.
T'es pas obligé de faire des cheminées pour avoir des emplois, Luc.
Voilà, je t'applaudis.
Je donne l'exemple de Lithion à Anjou. Prends Lyon, là, à Saint-Jérôme. Lyon va avoir des projets d'expansion peut-être un jour dans sa vie. Pourquoi pas penser à l'Est de Montréal? Ils viennent de développer une ambulance électrique avec le maire. Tout le monde applaudit. Alors, c'est ça la reconversion, Luc. Un secteur plus vert. Pourquoi l'Est de Montréal ne deviendrait pas...
Je vais donner un autre exemple.
La ville verte.
Oui, justement. Parce qu'on n'a pas besoin d'emplois industriels en ce moment. On n'en a pas besoin. On n'a pas assez de monde. Tu la vois-tu, la chaîne entre plus d'emplois, manque de personnel qualifié, immigration, manque de logement. Tu la vois-tu, cette chaîne-là?
Oui, mais toi, oui, mais c'est parce que ça prend des emplois. Je comprends que ça. Des emplois industriels, je suis d'accord avec toi.
Ils sont là, des emplois.
Mais pourquoi on n'en créerait pas davantage? Est-ce que tu es en train de dire que tu craches sur un investissement comme Amazon? Tu n'es pas d'accord avec ça?
Bien entendu que je crache sur Amazon toute la journée. J'ai manque de salive pour cracher sur Amazon. Bien entendu, on n'en veut pas d'Amazon. C'est quoi Amazon? C'est des produits faits en Chine, que la moitié vont être vendus, la moitié va être jetée, transportés par avion, par cargo, par bateau, par camion, retransportés par camion vers un client qui va dire, finalement, c'est pas ça que je veux, qui vont le renvoyer à l'entrepôt dans 25% des cas. Ouais. On n'en veut pas.
Bienvenue. Non, mais Luc, j'ai envie de te dire, là, je comprends que t'es habité d'idéaux. C'est extraordinaire, là, ce que tu défends. Arrivons dans le vrai monde, mon cher Luc. Sais-tu combien les Québécois ont acheté commerce en ligne l'année dernière? 10 milliards de dollars. Combien de ces 10 milliards sont à l'Amazon? Probablement beaucoup trop, mon cher Luc.
Oui, c'est vrai. Regarde, je vais donner un exemple, Nathalie. Je vais donner un exemple, là. Un exemple qui m'a amené dans le niveau de radicalité où je suis aujourd'hui sur le développement vert, le développement innovant, le développement industriel néanmoins. Solar Guys, là, ils voulaient se développer dans le golfe d'Anjou. Un gars arrive, il vient de Grande-Bretagne. Il dit, je vais faire la chose la plus verte que tu peux imaginer, je vais faire des panneaux photovoltaïques. Fait que là, ça me prend un terrain vert pour faire du verre. Fait que là, il veut faire ça dans le golfe d'Anjou. Les panneaux photovoltaïques, ça donne que c'est fait avec du verre. Lui, pour faire fondre du verre, là, c'est 3 jours de chauffe de sable avec des grandes cheminées, des trains qui amènent le sable, des panneaux qui repartent de l'autre bord aussi en train, des lignes de haute tension pour chauffer les hauts fourneaux. Et ça n'a rien de vert. Le procédé pour faire du photovoltaïque vert, il n'y a rien de vert.
Ouais, Luc, rien n'est parfait en ce bon monde. On veut le faire, le virage électrique, le virage vert, où on le fait pas. Le risque zéro n'existe pas, mais mon cher Luc.
On ne le fait pas dans une ville où on va construire un REM à 10 milliards et où on pourrait transporter ces gens-là vers des emplois bien moins polluants, puis où il y a un potentiel de développement magnifique d'un fleuve jusqu'à une rivière, avec des liens verts qu'on peut établir entre les deux, avec des habitations qu'on peut créer autour et des emplois aussi, j'en conviens, mais pas des emplois industriels. L'Est en a bien assez des emplois industriels.
On s'arrête là-dessus. C'était assez animé, ça. C'est très bien. Dans tes 54 000 emplois sur le plateau, il y a combien de boulangers?
En tout cas, moi, j'en fais vivre au moins 3-4.
Il y en a pas mal.
C'est 23.